Cowper, sucker.
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
Bonjour tout le monde. Eh bien oui, c'est notre anniversaire, l'anniversaire de Culture Soccer. Je suis sûr que vous êtes tous surpris de voir le podcast commencer de cette manière, mais on voulait souligner l'anniversaire de Culture Soccer, le deuxième anniversaire. J'aimerais recevoir en premier le rédacteur, un des rédacteurs en chef de Culture Soccer, Anthony de Varenne, qui est à mes côtés. Anthony, joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire à toi également, Adi. Hein. Ça fait deux ans que le site est lancé. Vraiment, félicitations à toi et à toute notre équipe, mais je pense que tu vas en parler.
Ouais, effectivement. Ben écoute, je suis très content donc de recevoir et d'avoir atteint en fait les deux ans. Et très sincèrement, je m'attendais pas du tout à atteindre ce genre d'objectif-là en seulement deux ans. Écoutez, c'est aussi simple que ça. J'ai fait une lettre ouverte. On a écrit une lettre ouverte sur Culture Soccer pour spécifier un peu les objectifs qu'on a atteints. Je vous conseille d'aller lire ça si jamais vous êtes intéressé. On commence à devenir de plus en plus un média reconnu pour le soccer nord-américain, en tout cas francophone, du côté francophone. On est content d'arriver à ça. On parle de tout ce qui est soccer nord-américain, contrairement à plein d'autres médias qui se concentrent sur une équipe ou sur une seule chose, sur un seul sujet. Nous, on regarde le tout dans sa globalité. On a nos articles, le nombre de vues par article a doublé. Nos podcasts ont une progression vraiment très, très bonne. On a presque doublé nos écoutes en moyenne sur nos podcasts, avec certains podcasts qui ont atteint vraiment des chiffres que, pour moi, je comprends pas comment on peut arriver aussi haut. Donc bref, c'est quand même très encourageant. Est-ce que toi, Anthony, tu as senti qu'à un moment donné, quand on a commencé le site, Antoine, toi et moi, est-ce que tu as senti à un moment donné qu'on allait atteindre ce genre de niveau-là, ou est-ce que tu es surpris de nous voir atteindre ce genre de niveau après si peu de temps?
Bien, c'est sûr qu'on espère toujours les atteindre, mais qu'on travaille dessus quotidiennement, c'est sûr que c'est... On pourrait dire que ça surprend, et surtout ça nous donne un velours et surtout une force supplémentaire pour continuer. Donc, je pense qu'en le lançant, on espérait atteindre ce chiffre, mais c'est sûr qu'en aussi peu de temps, là, ça fait chaud au cœur, et on voit que les lecteurs, les auditeurs sont intéressés à notre travail, puis je pense que c'est la plus belle chose pour nous permettre de continuer.
Ouais, effectivement, je suis d'accord. C'est sûr que ça nous donne en tout cas un bon boost, comme on dit. Il faut aussi ne pas oublier de mentionner chaque personne de notre équipe, et j'aimerais tous les mentionner un à un. Et je sais pas si toi tu as quelque chose à dire sur chacun d'entre eux après coup, Anthony. Je vais pas parler de chacun en long et en large, mais je vais juste au moins les mentionner. Alex Rupert, Antoine Latran, ancien rédacteur en chef, mais toujours très, très présent au sein de Culture Soccer. Il fait encore beaucoup de travail pour le site. Daniel Cameron, aussi très présent. Elodie Touzé, toujours là, toujours bienvenue, toujours prête à nous aider. Florian Moger, notre expert en college soccer, toujours aussi bon. Mathieu Lemay, que vous écoutez assez souvent ici sur le podcast, et que vous, si vous me suivez, bah, vous le connaissez aussi très, très bien, vu que je collabore avec lui sur plusieurs projets. Nathalie Durnia, qui, elle, nous aide beaucoup, surtout en point de vue de correction et tout ce qui est un peu dans les coulisses de l'autre côté. Raphaël Croisard, qui a écrit des articles vraiment très, très, très intéressants cette année. Thomas Foinel, le petit nouveau qu'on salue et qu'on attend de voir encore plus de beaux articles après l'article qu'il a fait sur le stade de Portland, que je vous conseille de lire parce que c'est vraiment un très, très bel article. Et Yannick Massicotte, qui nous avait rejoint l'année passée, qui a pris un peu a de temps pour lui-même, mais qui est de retour et qui devrait nous sortir de nouveaux articles cette année, sans oublier, bien évidemment, mon ami Anthony de Varennes, ici présent. Donc, quand même une belle équipe, je pense, Anthony, et je pense qu'au fur et à mesure, même si l'équipe a changé de temps en temps, on a des personnes qui ont quitté, d'autres qui sont venues et parties assez rapidement, c'est quand même assez cool de voir cette union qu'on a entre nous, parce que on se parle assez souvent, on est toujours en train de communiquer entre nous, et on sent qu'il y a une certaine envie d'aller encore plus haut et de monter un média qui est de plus en plus reconnu. Donc merci encore à tous. Anthony, un petit mot pour nos collègues.
Oui, ben c'est sûr que moi je trouve que ce qui fait la force de Culture Soccer, c'est vraiment que au début notre slogan c'était pour des passionnés, par des passionnés, mais c'est vraiment un cas parce qu'on sent à chaque fois qu'un article est sorti, qu'un podcast est lancé, que vraiment nos rédacteurs sont des passionnés. Et c'est des passionnés diversifiés, hein, parce que quelqu'un va aimer la NWSL, l'autre le college soccer, quelqu'un va peut-être plus aimer le côté culture du soccer nord-américain. Donc vraiment, on aime de tout. Et je pense que c'est ça qui fait la force de Culture Soccer, c'est qu'à chaque fois qu'un article sort, je pense qu'il n'y a pas un lecteur qui pourrait prédire c'est quoi le sujet. On essaie de pas refaire le même sujet deux fois, et je pense qu'on le fait assez bien jusqu'à présent. Donc vraiment, merci à tous nos rédacteurs, et surtout merci à ceux qui nous lisent et ceux qui nous écoutent. Donc merci à tous dans le fond.
Effectivement, merci à tous. Et si jamais à un moment donné vous êtes curieux de voir ce qu'un rédacteur a fait spécifiquement, vous pouvez toujours aller sur notre site web et sur le côté droit, vous allez pouvoir voir le nom de chaque personne. En cliquant sur le nom du rédacteur, vous allez voir tous les articles que lui il a écrit depuis qu'il a rejoint Culture Soccer. Donc c'est assez sympathique. Si jamais il y a une manière d'écrire que vous aimez plus qu'une autre, c'est une façon de faire, mais je vous conseille bien évidemment de regarder ce que tout le monde écrit, parce qu'on a vraiment beaucoup de talent au sein de cette équipe. En plus, on devrait avoir aussi d'autres personnes dans le futur qui vont nous rejoindre, qui sait, d'autres qui vont nous quitter, mais on est quand même toujours là, bel et bien présent dans l'univers du soccer nord-américain, et on vous remercie à vous, chers lecteurs, parce que c'est grâce à vous qu'on est capable de grandir, c'est grâce à vous qu'on est capable de continuer à avoir cet encouragement, parce qu'on, vous le savez tous, on est bénévole, on fait ça vraiment bénévolement, juste pour notre passion, et c'est quelque chose qu'on a envie de continuer grâce à vous. Bien évidemment, que ce soit vous les lecteurs ou vous les auditeurs, vous nous aidez beaucoup et vous nous encouragez beaucoup. Et je voulais juste dire que Culture Soccer commence à devenir de plus en plus mondial. C'est une plateforme qui est en train d'avoir des lecteurs et des auditeurs de partout dans le monde, et c'est ça qui est encore plus encourageant. Donc continuez à nous suivre, partagez notre contenu, parlez de nous, c'est très important, et restez à l'affût, parce que 2021 va être une année assez spéciale pour Culture Soccer. On a énormément de projets, Anthony de Varennes et moi-même, Adi Raphaël, pour faire grandir un peu ce média-là. Il y a quelques petites nouveautés qui vont arriver. Il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on va changer, qu'on va essayer d'améliorer. Et en tout cas, on espère vous offrir toujours du contenu de qualité, de la même qualité que ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Donc voilà, une dernière fois, un bon joyeux anniversaire à tous ceux qui aiment Culture Soccer et aux médias Culture Soccer, que ce soit les podcasts ou même le site web. Donc aujourd'hui, on va parler bien évidemment de soccer nord-américain. On a plusieurs sujets sur lesquels on va s'étaler, en commençant par le Fire de Chicago. La campagne du Fire de Chicago, on en avait parlé l'année passée, Anthony, puis on parlait du nouveau logo qu'ils avaient lancé. Et Antoine, je me rappelle, c'était un épisode où il y avait Antoine, toi-même et moi, et on était en train de parler, et tous les trois, on ne comprenait pas qu'est-ce qui était passé par la tête des dirigeants de soccer du Chicago Fire, parce qu'on comprenait pas comment une équipe pouvait accepter un logo aussi moche. On aurait cru le logo de Burger King doublé. Bref, c'était vraiment un fiasco. Les dirigeants ont remarqué la grogne des supporters, parce qu'une très grande majorité des supporters ont détesté le logo. Ils ont remarqué ça et cette année, ils ont décidé, malgré le fait que ça a dû leur coûter un bras l'année passée, la campagne marketing pour leur nouveau logo, ils ont décidé de le rechanger après juste un an. Et cette fois-ci, ils ont fait quelque chose de très sympathique. Ils ont impliqué les fans. Donc, ils ont fait en sorte de demander aux fans d'appliquer pour voir si jamais ils voulaient faire partie du comité décisionnel qui allait choisir et travailler sur le nouveau logo. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça en premier? Est-ce que tu trouves que c'est encourageant, Anthony, de voir le Fire de Chicago et les dirigeants du Fire de Chicago se retourner comme ça aussi vite, remettre de nouveau de l'argent pour rechanger, pour faire plaisir à ses fans, premièrement? Et deuxièmement, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle stratégie marketing du côté du Chicago Fire avec l'implication des fans sur le nouveau logo qui s'en vient bientôt? J'aimerais avoir ton avis là-dessus, Anthony.
Ben, c'est sûr que je pense que ça prend beaucoup, une certaine humilité pour avouer un échec comme ça, un échec de branding. Hein, c'est ça qui représente le club. Donc déjà là, chapeau à eux. Ça me rappelle un peu qu'est-ce que Louisville avait fait l'année passée, mais un peu en plus long là, mais juste pour vous mettre en situation, Louisville l'année passée avait sorti un logo et les supporters avaient complètement haï le logo, ils ne l'avaient pas aimé et Louisville avait décidé finalement d'annuler la sortie de ce logo. Ce qui a dû également là, coûter quand même assez cher, surtout que je pense que les maillots et tout avaient déjà été conçus. Et c'est ça. Donc, Louisville avait décidé de garder son logo initial pour la saison qui allait être à venir et d'en choisir un nouveau la saison suivante. C'est un peu ce que Chicago fait, mais un peu différent. C'est un an après, Chicago avoue que finalement, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Et pour être sûr de ne pas se tromper cette fois-ci, elle embarque les partisans dans le projet. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Écoutez ceux qui vous aiment. Écoutez ceux qui, au final, vont acheter les items du club. Donc, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et la réaction est plutôt bonne. Je pense que tous les supporters de Chicago, du Fire, s'ils peuvent enlever le logo actuel, je pense que tous sont satisfaits, fait que déjà la campagne est un succès.
Ouais, effectivement, la campagne a l'air jusqu'à maintenant d'être un succès. C'est sûr que le nouveau logo rentrera en vigueur juste en 2022 pour la 25e saison du club, parce que le Chicago Fire fêtera son 25e anniversaire au sein de la MLS l'année prochaine en 2022. Donc, ça va être quand même assez intéressant de voir ça. J'aimerais qu'on parle un peu des réactions des supporters. Tu as mentionné quelques petites choses, mais j'ai bien aimé en fait la réaction. Beaucoup, il y a beaucoup de soulagement, comme tu l'as dit un peu. Beaucoup de personnes qui sont là, ah ouais, ben enfin, ben c'est merci. Il y a plusieurs personnes qui ont remercié les dirigeants d'avoir écouté le Fire de Chicago, malgré le fait qu'ils ont fait une erreur. Et tu l'as dit, ça prend beaucoup de courage d'avouer que tu as fait une erreur. Mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi du côté des fans de Chicago, beaucoup d'entre eux demandent à ce que le logo, l'ancien logo, revienne. Et est-ce que tu trouves que c'est quelque chose d'intéressant ou est-ce que tu penses que c'est juste vraiment les nostalgiques qui s'attachent à cette idée-là, vu qu'ils ont suivi le club depuis 10-15 ans, qui sont un peu plus nostalgiques de l'ancien logo? Ou est-ce que tu penses que ce logo-là pourrait être de nouveau le nouveau logo, l'ancien nouveau logo du Fire de Chicago? J'aimerais avoir ton avis là-dessus, le retour d'un logo. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de faisable?
Ben, c'est sûr que d'office, quand on cherche un peu sur le site du Fire, on se rend compte que dans un article de questions et réponses, le club dit vraiment mot pour mot que c'est pas dans les plans, pas l'ancien logo. Donc, un peu déçu, ça aurait été beau, un bon vieux classique. Ça serait pas le cas, mais oui, comme tu dis, plusieurs le demandent, là. En dessous de la vidéo du Fire, il y a plus de 70 commentaires et je pense qu'au moins le tiers demande l'ancien logo. Je pense qu'ils vont avoir beaucoup de demandes pour l'ancien logo, mais non, c'est ça. En plus que le designer Matt Wolf est déjà sur le projet, donc Si c'est l'ancien logo, ça va être un ancien logo fortement remisé, je pourrais dire.
Ouais, c'est sûr que c'est quand même aussi dommage, mais bah, c'est normal que le Fire le dise ou non. Est-ce que tu penses que c'est une stratégie qui pourrait être suivie? Est-ce que tu as déjà vu ça ailleurs, Anthony, d'un logo qui s'en va et qui revient après? Moi, sincèrement, je me rappelle pas avoir vu ça quelque part et je pense que ce serait comme un peu reculer, revenir en arrière. Tu as pris une décision, tu continues avec ta décision, parfait, le premier essai n'a pas marché, bah tu changes, tu vas avec un nouvel essai. J'aimerais est-ce que toi tu as déjà vu ce genre de stratégie-là, une équipe revenir à leur ancien logo?
Ben, on le voit parfois, mais plus pour des journées spéciales, là. Par exemple, je pense qu'on a déjà vu dans la Ligue nationale de hockey, pour l'instant d'un match, le Colorado va devenir les Nordiques, des choses comme ça. Fait, moi, je serais pas contre, par exemple, le Fire qui arrive proche de leur 25e anniversaire, tu ressors le vieux logo. Je pense que ça serait un événement vraiment incroyable. Mais sur une base, on pourrait dire sur une base régulière, non, moi personnellement, j'ai rarement vu un club revenir à un ancien logo vraiment dans une période rapprochée. Et si c'est le cas, il y a toujours un petit élément là, qui est changé, des choses comme ça. Donc, je pense pas qu'on va revoir le bon vieux logo. Et je serais même pas surpris de voir des nouvelles couleurs même, parce que quand on regarde la vidéo du Fire de Chicago, il y a le bleu ciel qui représente vraiment bien Chicago, un peu comme l'équipe féminine là, à Chicago. On voit que c'est un peu dans les mêmes couleurs. Est-ce que ça va être ça est-ce que ça ressemble à ça le nouveau logo avec le drapeau de Chicago? On sait pas, mais c'est plusieurs pistes d'indices.
Ouais, bah écoute, je pense pas que le logo a été encore fait. Donc, je sais qu'il y a eu à un moment donné une sorte de rumeur comme quoi le logo avait déjà été fait. Ils ont sorti des logos en disant que c'est ça, que ça va être le nouveau logo du Fire de Chicago. C'est pas vrai. Le directeur de marketing a répondu sur Twitter en disant le logo est pas encore créé, on va le créer ensemble. Donc, on n'en est pas. Oui, ça a dû déjà commencer. Il y a peut-être eu des premiers drafts, des premiers essais, mais le logo n'est pas figé encore. Il faut dire que le Fire de Chicago a encore le temps, hein. On est le 9 janvier 2021, ça va être lancé en 2022. Donc, on s'entend qu'il y a amplement le temps. Il y a à peu près un an, peut-être un peu moins, si jamais ils veulent le lancer un peu à la fin de la saison, par exemple. Il y a quand même encore beaucoup de temps. Il faut aussi prendre en considération que si le logo va être lancé, c'est sûr qu'ils ont besoin d'un bon 6 mois pour mettre tout en place, faire de la marchandise avec le nouveau logo, imaginer un peu tous les concepts autour du logo aussi. Donc, c'est sûr qu'il va falloir prendre des décisions assez vite. Mais n'empêche, ça a l'air que le logo n'a pas été choisi encore. Donc, on verra ce qui va se passer. Une dernière question par rapport à ce sujet, mon cher Anthony. Est-ce que pour toi, si jamais toi, je sais que tu es quelqu'un qui est quand même collectionneur, qui va collectionner des maillots et ainsi de suite, est-ce que pour toi, ça vaudrait la peine d'acheter un maillot du Chicago Fire maintenant avec ce logo-là qui aura duré 2 ans? Je pense que dans quelques années, dans une vingtaine d'années, ça pourrait être un maillot collector qui pourrait se vendre très cher, non?
Oui, ça se peut que ça se vende très cher, mais avoir mal aux yeux à chaque jour en le regardant, je suis pas certain.
Bah, tu le porteras pas là, tu le mettras dans
Non,
ton
non,
armoire,
non,
puis
exact.
tu le garderas là.
Mais ouais, ça peut être une bonne idée pour les collectionneurs. Moi, personnellement, je pense pas le faire, mais oui, c'est une très bonne idée. Et oui, pour finir sur le sujet, moi, je pense que l'équipe du Fire ont pas beaucoup de pression. Parce que c'est dur de faire pire, là. Fait que, les gars, no pressure, ça va bien aller.
Ouais, mais aussi il faut que tu arrives à quand même à rapatrier un peu les supporters qui étaient tellement déçus, parce qu'il y en a des supporters qui étaient tellement déçus, qui se sont complètement détachés du club. Donc il faut que tu arrives à les réattirer vers toi. Et c'est ça qui va être difficile du côté du Fire de Chicago. C'est ils vont devoir faire de nouveau un changement et rapatrier tout le monde pour de nouveau créer une sorte de hype, une sorte de buzz autour du club, parce qu'on s'entend que Le Fire de Chicago, c'est un des clubs les plus anciens qui, à un moment donné, c'est quand même un gros club au sein de la MLS. On a des joueurs comme Misto Stoichkov qui a joué pour le Fire. Hein. C'est pas des petits joueurs hein, qui ont joué pour ce club-là. J'ai nommé Stoichkov, mais il y en a beaucoup. Il va falloir qu'ils trouvent un moyen de vraiment rallumer la flamme. Schweinsteiger était là, oui. Mais il va falloir rallumer la flamme d'une autre manière. Est-ce que c'est en amenant aussi des joueurs? En tout cas, il y a beaucoup de travail à faire du côté de Fire de Chicago. Déjà, les résultats sur le terrain seront importants, mais le côté marketing sera important aussi. Donc, on a hâte de voir ce qui va se passer. Ça, c'est sûr, parce que Fire de Chicago, comme tu as dit, n'a plus grand-chose à perdre, parce que je pense que le pire a déjà été atteint. Il est temps maintenant de regarder vers le haut et de penser à quelque chose de nouveau.
Ouais, exact. Puis non, je pense que Chicago, juste le fait qu'ils acceptent leur erreur, on voit qu'ils sont dans une façon de penser plus positive et tout. Donc je pense pas qu'on va être déçu honnêtement là. Tu peux te rater une fois, mais la deuxième fois, je pense qu'ils vont mieux faire et je pense que cette fois-ci, puisqu'ils écoutent les supporters, ben, ça va être même si c'est pas un logo que toute la ligue aime, ben l'important c'est que leurs supporters l'aiment. Et je pense que ça va être le principal dans leur campagne.
Effectivement. Parlons un peu, on parle de le logo et ainsi de suite. Et c'est impossible de ne pas mentionner l'Impact de Montréal. L'Impact de Montréal qui a annoncé un changement d'identité. Donc, on parle pas seulement d'un logo, selon moi. On parle quand même d'un changement complet d'identité, changement de nom. On l'a su, Éric Chenoy, une personne qu'on a vue plusieurs fois, qui a intervenu plusieurs fois sur les podcasts de Culture Soccer, que ce soit dans CS Adérable ou même ici sur le podcast Culture Soccer, a sorti... et lui-même est parvenu à sortir l'information et à chercher lui-même en disant que le nouveau nom du club sera CF Montréal, mais pas pour Club de football de Montréal, mais pour Club de foot Montréal, ce qui est un peu, selon moi, pas très sérieux. Ça, c'est mon avis. Mais tu penses quoi de ce nom de CF Montréal et du côté Club de foot Montréal, Anthony? Est-ce que c'est quelque chose, toi aussi, qui te laisse un goût amer dans la bouche?
Ouais, ben c'est sûr que c'est toujours bien d'avoir, je pense... un nom original comme l'Impact, vraiment, je pense que ça crée une réelle identité. Mais je pense que je suis pas contre un changement de nom si, par exemple, l'Impact reste. Par exemple, tu utilises le CF Montréal, mais tout le monde continue à appeler le club l'Impact. Ça devient un surnom chez eux. Mais c'est sûr que club de foot, ça fait un peu ligue de garage. Je pense que club de football ou club de soccer, ça aurait été un peu mieux. Mais déjà qu'ils le mettent en CF et non en FC, moi, je trouve que c'est bien vraiment qu'ils mettent de l'avant là, le français. Je pense que au Canada et même en Amérique du Nord, ils auraient pu être très bien tentés d'y aller avec le FC. Je pense que ça n'aurait pas été tous les supporters d'Impact qui auraient été contre. Mais je trouve que la petite touche francophone, c'est très bien là, du côté de l'Impact. Et c'est ça. S'ils sentaient qu'il devait avoir un changement d'identité, je pense que CF Montréal, ça fait bien. Et si tu gardes l'Impact en tant que surnom ou en logo secondaire, moi, je trouverais ça très bien.
Ouais, effectivement. Écoute, oui, c'est sûr qu'il y a pour beaucoup de puristes et de gens qui suivent l'Impact depuis très longtemps vont continuer à l'appeler l'Impact malgré le fait qu'il y a ce changement de nom. Après, CF Montréal, moi j'aime bien, même si je suis contre le changement de nom, maintenant c'est trop tard, il va falloir l'accepter. CF Montréal, je trouve ça bien. Après, club de foot, je trouve ça un peu ridicule. Toi, tu as dit que CF Montréal, ça fait français, ben non, ça fait espagnol. Les rares clubs qu'on voit avec CF avant, c'est des clubs espagnols, ça fait hispanophone. Les clubs français font FC d'habitude, donc on a Nantes FC par exemple ou FC Nantes. On a plusieurs équipes qui ont du FC en France. Les Girondins de Bordeaux par exemple aussi, il y a du FC dedans. Bref, il y a plusieurs FC au sein des clubs français. Après, bon, je comprends qu'ici qu'au Québec, il y a un peu ce côté sais où il faut mettre de l'avant la langue française. Donc, je suis pas contre du tout le CF Montréal, mais s'il vous plaît, soyez sérieux. Club de football de Montréal, club de soccer de Montréal, pas club de foot, parce que sinon, ça fait vraiment amateur. En tout cas, on va en savoir plus sur le nom spécifique le 14 janvier. Ça va être dévoilé très, très vite. J'aimerais aussi qu'on parle un peu de la campagne marketing de l'Impact de Montréal. Je ne sais pas si tu l'as suivi, Anthony, mais avec plusieurs photos en noir et blanc, mentionnant trois dates. Les trois dates en question, c'est 1992, la date de création du club, 2012, la date d'entrée en MLS du club, et 2021, qui est cette année. Est-ce que tu aimes cette campagne marketing là, avec les photos en noir et blanc, beaucoup de photos. On a vu des photos d'un filet de foot. On a vu des photos de la ville de Montréal en noir et blanc. Il y a eu et ça fait quand même 5-6 jours que cette campagne-là dure. On appelle ça des teasers où on est en train vraiment de donner un avant-goût de ce qui s'en vient du côté de l'Impact de Montréal. Premièrement, est-ce que t'aimes la campagne marketing, Anthony? Et deuxièmement, est-ce que tu la trouves trop longue?
Ben, je me mets dans la peau d'un supporter de l'Impact et c'est sûr que je la trouverais longue, mais dans le bon sens. Je pense qu'ils font durer on pourrait dire, l'excitement, l'événement, et je pense que c'est bien du côté de l'Impact. Et vraiment, leur campagne est un succès jusqu'à présent. Ben, en fait, hier, vendredi, ils ont sorti une vidéo un marketing, et elle a eu pratiquement autant de vues que celle du Fire. Je pense qu'on est à 1000 ou 2000 visionnements de différence. Elle a atteint le 42 000 jusqu'à présent. Là, elle s'approche du 43 000. Et Chicago, c'est une population urbaine de 10 millions, tandis que Montréal, c'est plus autour du 3 millions. Donc, c'est pas le même marché, et l'Impact qui réussit à attirer autant de vues, je pense que c'est vraiment bien. Et on sent vraiment qu'il y a une logique derrière cette campagne-là. Je pense que plus que les jours vont se rapprocher du 14 et plus qu'on va en savoir un peu plus. Mais vraiment, non, je trouve que c'est parfaitement géré. Ça serait vraiment drôle que finalement, ça soit vraiment les couleurs du club, noir et blanc.
Ouais, mais ça a l'air de ça, hein. Ça a l'air de ça. En tout cas, si on spécule, ça a l'air que ça va être du noir et blanc et que même les couleurs du club vont changer. Est-ce que pour toi, c'est un peu trop loin, hein, pousser trop loin de changer complètement le tout, sachant que l'Impact, oui, c'est vrai qu'il y avait l'Impact aurait pu mieux faire. Oui, l'Impact n'est pas une des équipes les plus suivies, mais changer vraiment tout au complet, tu trouves ça une bonne idée?
Ben, moi, personnellement, je serais pas surpris que les vidéos soient en noir et blanc et finalement, la dernière vidéo, il y a eu un changement du noir et blanc, du noir, blanc, bleu. Ben, bleu, blanc, noir, dans le fond. Mais c'est sûr que noir et blanc, ça serait peut-être pousser le rebranding un peu trop loin parce que vraiment, là, en plus du logo, en plus du nom de l'équipe, on change les couleurs. Mais en même temps, il n'y a personne qui a les couleurs noires et blanches, si je ne me trompe pas, à MLS, là, donc peut-être ça leur permettrait d'être unique en MLS, mais non, je pense que le bleu est quand même important pour les Québécois et les Montréalais.
Ouais, effectivement, je pense aussi que c'est quand même le bleu est quelque chose de très intéressant et très important pour les Montréalais et en fait pour l'image de l'Impact de Montréal. Après, bon, je vais être honnête avec toi parce que je vais donner mon avis un peu sur la campagne. Bon, j'étais un de ceux et je l'ai déjà dit sur ce podcast-là. Pour moi, j'ai jamais compris comment on peut changer un nom. Et je pense que si l'Impact de Montréal devait changer un nom, ils auraient dû le faire lors de leur entrée en MLS. Ils l'ont pas fait. Ils ont raté leur chance. Je trouve un peu bizarre. Bon. Mettons ça à part, finalement, il y a un changement de nom. J'aime beaucoup la campagne marketing. Je vais être honnête avec toi, combien j'étais déçu du changement de nom et du changement d'identité. Et cette campagne marketing-là, elle m'a donné le goût de suivre elle m'a donné, j'ai hâte, je suis excité à voir ce qui va se passer. Je suis excité à voir le dévoilement. Je trouve qu'elle est très bien faite. Elle me donne l'eau à la bouche. Je trouve ça très intéressant ce qui est en train d'être fait par l'Impact de Montréal. Et en tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Je serai bien évidemment lors du dévoilement de la nouvelle identité de l'Impact. Je serai là, ferai partie de la conférence de presse. Donc, je verrai ça de mes propres yeux. J'ai vraiment hâte à ça. Par contre, une dernière chose par rapport à l'impact de Montréal, si tu te mets maintenant à la place de Kevin Gilmour, qui a engagé, entre autres, deux nouveaux créateurs de contenu très, très reconnus, qui ont travaillé, par exemple, sur l'organisation de la Coupe du Monde 2026 et surtout le dossier que le Canada, les États-Unis et le Mexique ont présenté pour avoir la Coupe du Monde 2026. Si jamais toi, tu es Kevin Gilmour et les hauts décidants, les hauts dirigeants de l'impact de Montréal, Anthony, quand tu dévoilerais le 14 les nouvelles couleurs et toute l'identité, est-ce que tu ferais en sorte aussi en même temps de mettre des joueurs qui soient là pour aussi encore donner un plus gros punch à cette annonce-là, que ce soit les joueurs actuels, comme par exemple Samuel Piette, qui est un peu le héros national, un peu des supporters de l'Impact de Montréal, par exemple, ou est-ce que aussi, tu ferais en sorte de faire en une pierre deux coups et tu annoncerais, par exemple, un nouveau joueur, un joueur désigné, par exemple. Donc, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que c'est une stratégie que tu choisirais, toi, Anthony?
Oui, je pense que j'annoncerai la plus grosse signature de la off-season pour Montréal. Je pense que ça serait une bonne idée avec le dévoilement. Je sais pas, tu dévoiles en même temps le nouveau maillot avec le nouveau joueur et finalement les gens découvrent que la personne qui a le maillot, ça devient le nouveau joueur pour vrai. Ça serait une bonne idée, je pense que, et surtout si jamais le nouveau branding est pas trop apprécié par les fans. Bon, moi, tu le fais un peu oublier avec un gros joueur. Et si les fans l'aiment, ben là, ils vont être aux anges, là. Ils vont être. Ça va être la folie. Donc, oui, je pense que ça mettrait un bon momentum au début de la saison de l'Impact, là, parce qu'avec le camp qui commence bientôt et tout, je pense que si les joueurs sentent que vraiment. Tous les supporters sont derrière eux, ben je pense qu'ils vont bien débuter la saison là.
Ouais, effectivement, ils débuteront bien la saison. Tu as complètement raison, Anthony, si jamais ça arrive. Après, bon, pas besoin que ce soit le jour même, même si le jour même, ce serait quand même un gros coup. Mais je pense que, par exemple, tu peux faire ce genre d'annonce-là, le 14, puis peut-être dans 2 jours plus tard, tu annonces le joueur, un joueur désigné ou quelqu'un avec un gros nom, avec beaucoup d'attrait marketing. Puis là, tu viens de donner un bon coup de pied dans la fourmilière pour réveiller tous les amoureux du sport à Montréal et les inciter à suivre l'équipe et le CF Montréal, en tout cas. Ça va être très intéressant de voir la suite du côté de Montréal, voir exactement ce qui va se passer. En tout cas, on en parlera bien évidemment lors du prochain podcast aussi sur Culture Soccer. On vous donnera un peu notre avis par rapport à ce qui s'est passé, vu que le dévoilement aura déjà été dévoilé. Donc, ça va être assez intéressant de suivre ce qui se passe de l'autre côté de l'autoroute. On peut l'appeler la 420, on peut l'appeler ce que tu veux, mais à Toronto, du côté du club rival, Culture Soccer a reçu d'une source confidentielle un gros coup, quelque chose qui va se passer de la bouche de Ali Curtis, le président du club. On a su ici sur Culture Soccer comme quoi le Toronto FC est sur le point, et c'est imminent, de signer un très gros coup en tant qu'attaquant de pointe du côté de Toronto FC. Et en plus, un latéral gauche, une info reçue, malheureusement, on ne pourra pas dévoiler nos sources, mais c'est vraiment une source qui cite Ali Curtis lui-même. Donc, pour vous donner un peu la phrase exacte en anglais, je vais vous la donner en anglais, je vais la traduire en français. We are close to finalizing a big deal for a goal scorer and close to locking in a left-back transfer. We'll have to see what our cap looks after those deals get finalized. Donc, on est prêt à finaliser un gros coup pour un buteur. Est très proche aussi de recruter un défenseur gauche. On verra à ce moment-là ce qui se passe sur notre masse salariale pour voir si jamais on va bouger encore plus. C'est quand même intéressant. Après, qu'est-ce que vaut cette source-là? Je pourrais jamais le dire. On va jamais. Je pourrais jamais dire que ouais, c'est sûr, ça va arriver. Mais c'est quand même une source qui est quand même proche du dossier et le fait que ça sorte de la bouche de Ali Curtis, c'est sûr que c'est encore, ça donne un peu plus de légitimité. On verra si c'est le cas. T'en penses quoi de ça du côté de Toronto FC, sachant qu'en tant qu'attaquant de pointe, t'as déjà Jozy Altidore, même si on sait qu'il est souvent blessé, mais t'as quand même Ayo Akinola, qui lui a vraiment été impressionnant l'année passée. T'en penses quoi? Parce qu'on sait que Toronto a quand même un joueur désigné qui est plus sous contrat avec Pablo Piatti, donc il y a une place de joueur désigné. J'aimerais avoir ton avis là-dessus, Anthony, de cette rumeur-là pour un attaquant de pointe du côté de Toronto FC.
Ouais, dans ma tête, pour l'attaquant de pointe, j'ai l'impression qu'il va falloir que dans ma tête, soit Tidor ou Akinola partent. Sinon, c'est peut-être qu'ils veulent réduire les responsabilités d'Altidor, vu qu'il a souvent été blessé dans le passé. Mais j'ai de la misère à avoir trois très bons buteurs à Toronto. J'ai l'impression que si ça l'arrive, Akinola va peut-être manquer de temps de jeu, ça va peut-être briser sa progression. Mais rendu là, peut-être que le club veut remporter une nouvelle coupe la saison prochaine. Également, ils sont en finale du championnat canadien, des choses comme ça. Donc, il y a quand même des échéanciers importants pour eux. Donc, je suis pas contre un nouveau buteur à Toronto, surtout un très grand buteur. Mais c'est ça, j'ai l'impression que soit Altidore ou Akinola devraient partir. Je sais pas si tu es du même avis que moi.
Ouais, bah écoute, moi je trouve, il y a plusieurs choses que je trouve un peu bizarres dans cette annonce-là. En premier, oui, tu as parlé un peu du fait qu'il y a quand même deux attaquants de pointe intéressants. Faut pas oublier aussi qu'il y a quand même un autre attaquant qui est Patrick Mullins qui est là aussi. Je sais pas s'il est encore sous contrat pour l'année prochaine, mais c'est pas un mauvais attaquant de MLS qui est capable de donner de bons services et de rendre de bons services. Donc, tu dois encore aussi, tu sais, t'occuper de ce genre de joueur-là. Mais moi, ce que je trouve un peu bizarre, c'est qu'on est en train de faire tout ça sans avoir même nommé un entraîneur. Est-ce que l'entraîneur n'a pas son mot à dire? Peut-être que l'entraîneur qui va être choisi, est-ce que il voudra à ce moment-là demander un autre profil de joueur? Donc, comment ça se fait qu'on est en train de finaliser un recrutement sans l'avis de l'entraîneur? Je dis pas que l'entraîneur, c'est lui le décisionnaire. Non, mais il faut quand même prendre son avis. C'est lui qui va devoir faire jouer ces joueurs-là. Par contre, du côté de latéral gauche, je suis complètement, mais complètement d'accord et je suis très content qu'ils sont en train de regarder là. Parce que même si Richie Larea a joué à gauche, on sait que c'est plutôt un latéral droit. Et derrière lui, il y avait Justin Morrow. Justin Morrow qui, malheureusement, a 33 ans, mais est souvent blessé l'année passée. Je pense qu'il est temps qu'il fasse de la place à quelqu'un d'autre. Donc, je comprends la logique derrière le recrutement d'un latéral gauche. Mais côté buteur, j'aurais aimé attendre à ce que l'entraîneur soit dévoilé avant de faire ce genre de mouvement. Est-ce que toi, tu penses que le dévoilement de l'entraîneur est quand même prioritaire par rapport à un recrutement de joueurs, non?
Oui, ben, je pense que ça fait beaucoup plus sérieux si t'annonces l'entraîneur avant les joueurs. Et j'ose espérer que si un gros joueur arrive, que le prochain entraîneur en est d'accord, parce que sinon, c'est un peu, on pourrait dire, un gaspillage de budget. Je pense que si l'entraîneur n'est pas au courant, c'est pas optimiser la dépense. Je pense que si l'entraîneur pourrait vraiment avoir le joueur de son choix, ça serait beaucoup mieux. Mais c'est ça. Après, reste à voir. Je pense que c'est pas parce que l'entraîneur est annoncé après qu'il n'était pas forcément le décideur de. Ben, s'il n'était. Mais ouais, tu comprends ce que je veux dire, mais
Ouais, c'est sûr, c'est sûr.
c'est
Si
ça, je
jamais,
crois.
peut-être qu'il n'a pas été annoncé, mais en fait, il a fait partie de la décision, il a fait partie
C'est ça.
de toutes les tractations autour du recrutement de ce joueur-là. Oui, c'est très possible aussi, effectivement.
Exactement, mais c'est ça, je pense que. Puis de toute façon, je pense que si c'est vraiment un grand buteur, je serais surpris que l'entraîneur soit contre son arrivée, là. Donc, je pense vraiment que. Je suis surpris de voir Toronto chercher un attaquant, mais je serais pas surpris qu'il soit annoncé avant l'entraîneur et je serais pas forcément choqué.
En tout cas, on verra, on verra, on va suivre de près le mercato du Toronto FC, ça c'est sûr. Le dernier sujet, c'est de parler un peu du camp de janvier des équipes nationales américaines et canadiennes. On va parler un peu de ce camp-là parce que c'est assez spécial pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont encore nouveaux dans l'univers du soccer nord-américain. Les équipes nationales des États-Unis et du Canada font toujours un camp au mois de janvier. C'est un camp au mois de janvier où la plupart des joueurs européens, en tout cas dans les gros clubs européens, ne sont pas parce que ce n'est pas des dates FIFA. Mais vu qu'ils sont en période en pleine période de saison morte du côté de l'Amérique du Nord, ils en profitent, les sélectionneurs, pour ramener des joueurs un peu plus locaux ou ramener des joueurs qui sont dans des divisions inférieures en Europe. Et ça permet un peu aux sélectionneurs de regarder un peu le bassin des joueurs qui sont disponibles pour eux afin de faire leur sélection plus tard. Donc il y a eu, on va commencer par l'équipe américaine parce qu'il y a beaucoup à dire du côté de l'équipe américaine. Greg Berhalter a décidé de faire un camp pour l'équipe nationale américaine de l'équipe nationale avec des U23. Donc il va y avoir l'équipe des U23 et l'équipe senior qui va être là. Et c'est pour ça que Greg Berhalter a décidé de n'appeler que juste 12 joueurs de l'effectif, selon lui, qui seraient normalement appelés avec l'équipe senior. Il a appelé Sean Johnson en tant que gardien de but de New York City FC, Matt Turner du Révolution de la Nouvelle-Angleterre qui a fait une excellente saison, qui a été choisi par notre ami Mathieu Lemay comme meilleur gardien de l'année hein, lorsqu'on a fait nos Culture Soccer Awards, nos trophées Culture Soccer. Et là, c'est un peu plus surprenant, il a appelé Tristan Blackman du LAFC. Ben, je ne suis pas très convaincu par ce genre de call-up. Après Aaron Long, Walker Zimmerman, on les connaît, c'est quand même des habitués. Kellyn Acosta qui fait son retour un peu au sein de l'équipe nationale. Sébastien Leggett qui est toujours très très bon. Christian Roldan des Sounders de Seattle aussi. En attaque, on a Jozy Altidore, Jordan Morris, Chris Muller et Paul Ariola, même si Paul Ariola, on sait qu'il peut jouer à plusieurs positions sur le terrain. T'en penses quoi des 12 appelés par Greg Berhalter dans l'effectif senior? Est-ce qu'il y a des surprises pour toi?
Ben, c'est sûr que voir Blackman, c'est une surprise. Je dis pas qu'il l'a pas mérité, mais on voit que ces 12 joueurs, ben, la majorité sont des joueurs expérimentés, que c'est pas leur première avec l'équipe senior. J'ai l'impression que Blackman aurait peut-être été, se rapproche peut-être plus de l'effectif des U23 que de l'équipe senior. Mais non, je pense qu'il va pouvoir, il va pouvoir découvrir, on pourrait dire, les camps de l'équipe senior avec moins de pression. Je pense qu'en étant avec les U23, c'est moins, c'est moins de pression. Mais non, à part Blackman, j'ai pas vraiment de pression. Moi, j'espérais voir un Darryl Dickey, mais malheureusement, il est pas présent, même s'il a fait une bonne saison. Mais non, à part Blackman, j'ai pas de grosses surprises. Je sais pas de ton côté.
Ben écoute, ben Blackman, oui, c'est une grosse surprise. Par contre, je suis content que Chris Muller a été appelé à 24 ans. Oui, est-ce que si jamais il y avait tous les Européens, il serait là? Je doute. Mais par contre, c'est quand même intéressant de le voir être appelé à ce niveau-là avec l'équipe A. Et c'est ça qui ça donne envie de voir encore plus. Et ça lui donne un peu plus d'encouragement aussi hein, de le voir appelé ici. Après, Matt Turner, c'est intéressant. Il avait déjà été appelé dans le passé, mais il a jamais eu encore, il a jamais joué encore un match. Sous les couleurs de l'équipe nationale américaine. Le reste, pour moi, c'est un peu de rien de très surprenant. Kellyn Acosta, comme je l'ai dit, il a déjà joué sous les couleurs de l'équipe nationale à plusieurs reprises. C'est un retour pour lui, vu la bonne saison des Rapids de Colorado. Donc, bref, pas beaucoup de surprises de ce point de vue-là. Par contre, c'est plus les joueurs non appelés qui m'ont un peu surpris. En tant que gardien de but, on a quand même un joueur comme Bill Hamid qui n'a pas été appelé, qui était quand même un joueur qui est quand même appelé régulièrement, même en tant que troisième gardien. Il a juste joué à peu près 8 matchs sous les couleurs de l'équipe nationale, mais n'empêche, c'est quand même quelqu'un qui une force, une certaine constante en MLS, un bon gardien de MLS. Donc ça m'a un peu surpris. Pour ce qui est du reste, ce que j'ai trouvé aussi très surprenant, c'est Jesse Zardes qui n'a pas été appelé, mais j'ai su après qu'effectivement il est un peu blessé. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas été appelé. C'est ce que j'ai cru comprendre et par rapport à ce qui a été fait. Mais toi, pour toi, est-ce qu'il y a des joueurs que tu aurais attendu à ce qu'ils soient appelés et qui n'ont pas été appelés? Bien évidemment, on parle des joueurs seniors. On va exclure tous ceux qui ont été appelés pour les U23 parce qu'ils sont quand même, ils font quand même partie du camp. Ils sont là. Mais de ceux qui n'ont jamais été appelés, est-ce que tu penses qu'il y a des surprises?
Oui, ben en fait, oui, je viens de réaliser mon erreur parce que DK est avec les U23,
Exact, exact.
Mais oui, mais c'est ça. Au niveau des. Moi, peut-être j'aurais aimé ça voir un Kyle Duncan à la place de Blackman. Je pense que j'aime mieux qu'est-ce qu'il peut apporter. Mais non, que, sinon, un Cole Bassett, je pense qu'il n'est pas avec les U23, si je ne me trompe pas. Je pense que ça aurait été bien de le voir au milieu, lui faire découvrir l'équipe senior. Je pense que c'est un joueur qui le mérite. J'aurais pas été choqué, par exemple, de le voir à la place d'un Legit, même si Legit mérite sa place. Mais c'est ça, à part Duncan et Bassett, mais ça reste quand même des choix très jeunes. Donc, je peux comprendre que Berhalter voulait apporter un peu d'expérience. Mais non, à part ça, je suis très bien avec les choix qui ont été faits. Zimmerman a été choisi, donc...
Ouais, toi, t'es content parce que t'as quelqu'un de Nashville qui est choisi. Je comprends très, très bien. Lovitz, ça n'a pas été choisi, par contre. Est-ce que ça te surprend?
Ah, ben je pense qu'ils ont voulu y aller. Ils ont voulu découvrir Blackman dans le camp. Je pense que c'est vraiment pour ça, là. Mais non, j'ai pas été vraiment... vraiment très surpris. Il a fait une belle saison, mais c'est ça. Je pense que c'est un camp de janvier. Ça permet aussi de découvrir du nouveau monde. Donc, je serais pas surpris. Puis si je me trompe pas, ça fait quand même un petit bout qui a pas été appelé, là.
Ouais. Bah oui, ça fait un petit bout. Tu as complètement raison. Mais aussi, une autre surprise, Ayu Akinola. Pas appelé avec l'équipe nationale, même pas avec les U23. Pourtant, on l'a vu, il a joué face au Salvador au mois de décembre. Donc, il a eu ses premiers pas. Il a fait ses premiers pas avec l'équipe nationale américaine. Il a même marqué un but. Est-ce que c'est quelque chose qui te surprend? Surtout que, comme on l'a dit, il a joué. Il a joué, il était là et il est disponible. On le sait que aussi, c'est un joueur qui peut revêtir les couleurs canadiennes. Et bon, on a comme l'impression qu'Ayo Akinola, parce qu'il a été appelé par le Canada, on va en parler un peu plus tard, il a été appelé par le Canada cette fois-ci, donc et l'équipe nationale, l'équipe A du Canada. Qu'est-ce que tu penses un peu de ce côté-là? Il est appelé, il a joué avec les États-Unis le 9 décembre, puis là, il va être dans le camp de janvier de l'équipe nationale canadienne. Ton avis là-dessus sur Ayo Akinola?
Ouais, ben moi je pense que si je suis le Canada, j'essaie de le faire jouer le plus tôt possible dans un match officiel parce que on sent vraiment qu'il est en hésitation. On dirait pratiquement qu'il fait une entrevue pour un emploi. Il va voir comment le travail marche dans le camp américain. Après ça, il va aller voir le camp canadien. Mais non, je pense pas qu'il va pouvoir faire des allers-retours comme ça très longtemps. Et je pense qu'il voit dans le Canada peut-être un chemin un peu plus facile pour se rendre comme le buteur de la sélection. Donc, je ne serais pas surpris qu'il ait déjà choisi le Canada, surtout qu'il a été appelé et qu'il a accepté. Si on ne le voit pas dans ce camp-là, c'est peut-être tout simplement le fait qu'il a refusé l'équipe américaine.
Ouais, mais est-ce qu'il a refusé... Moi, je me mets un peu à la place du sélectionneur, des sélectionneurs. Et je me dis un peu, quelque part, est-ce que je veux J'ai comme l'impression que quelque part, Ayo Akinola, oui, même si j'ai envie qu'il porte les couleurs canadiennes, on le sait, je suis plus pour Canada que pour les États-Unis. J'ai comme l'impression que c'est un peu un espion aussi, quelque part. Donc là, il va venir, il va suivre tout, il va voir effectivement le dedans et il va entrer dans la bulle de Canada Soccer. Et si jamais il choisit les États-Unis après, c'est un peu comme il aura un peu tous les secrets de Canada Soccer pour aller aux États-Unis et vice-versa. Hein. Si jamais il choisit le Canada, il a un peu vécu la bulle avec Greg Berhalter et l'équipe nationale américaine. Est-ce que tu trouves ça bizarre le fait qu'à un moment donné, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, en fait, les sélectionneurs vont mettre leur poing sur la table pour dire, écoute, à un moment donné, tu vas faire ton choix parce que là, on en a marre un peu de à jouer à ce jeu-là. Là.
Oui, exactement. Je pense qu'à un moment, les deux sélectionneurs vont se regrouper. Ils vont demander à Kinola demain, ils vont dire, là, il faut que tu fasses un choix. Est-ce que tu vas chez papa ou maman? Mais
Ouais.
non, plus sérieusement, ben, je pense vraiment qu'à Kinola dans un grand doute. Mais non, c'est assez rare qu'on voit ça, des joueurs qui échangent d'une sélection à l'autre, surtout une sélection des sélections rivales comme le Canada et les États-Unis. On ne voit pas ça à chaque année, mais j'ose croire que là, il a pris sa décision, là, parce que c'est ça. Si au prochain camp, il va avec les Américains, je pense que ça serait surprenant, là.
Ok. En tout cas, on verra, ça va être assez intéressant du côté de Ayo Ekinola. Mais avant de revenir au Canada, je veux juste parler des U23 américains, juste nommer les joueurs assez rapidement. Donc, JT Marcinkowski, David Ochoa et Brady Scott, le nouveau gardien de Austin FC, sont les trois gardiens de but, du côté des U23 américains. Julian Araujo, George Bello, Chris Gloucester du PSV Eindhoven, Aaron Herrera, Aboubakar Keïta, du champion du Crew de Columbus, Henry Kessler, qui a été très impressionnant avec le Révolution de la Nouvelle-Angleterre, Mauricio Pineda, aussi impressionnant avec le Fire de Chicago, Brian Reynolds, du côté de FC Dallas, qui est un peu suivi par beaucoup de clubs américains, et Miles Robinson, du côté d'Atlanta, en défenseur, et Sam Vines, aussi, des Rapids, en tant que défenseur. Du côté des milieux de terrain, on a Asami Dodson, Brian Caio de Wolfsburg, en Allemagne, Andrés Pereira d'Orlando, Tanner Tessman de FC Dallas, Eric Williamson que tu adores toi pour les Timbers de Portland, Jackson Yule de San Jose Earthquakes, tout comme Cade Cowell en tant qu'attaquant du côté des Earthquakes, Daryl Dickey, t'en as parlé un peu plus tôt, Jérémy Ebobissé, Jesus Ferreira du FC Dallas, Jonathan Lewis de Colorado, Benji Michel d'Orlando et Georgi Mihailovic, et oui, de l'Impact de Montréal ou bien de CF de Montréal, on saura plus tard. Tu penses quoi de ces U23? Tu as parlé un peu de Duncan. Est-ce qu'il y a un joueur que tu as vraiment envie de voir jouer avec ces U23-là? Ou est-ce qu'il y a un joueur que tu penses qui aurait dû avoir sa place, à part ce que tu as mentionné un peu plus tôt, comme Cole Bassett, par exemple? Qu'est-ce que tu en penses, et Kyle Duncan, mais qu'est-ce que tu en penses, Anthony?
Ben moi, j'aime qu'est-ce que je vois actuellement. Je pense que moi, j'ai hâte de voir Miles Robinson dans un uniforme américain. Donc, c'est ça, je pense que c'est le joueur que je vais surveiller durant ces matchs-là. Sinon, ça aurait peut-être été bien de voir un petit Marco Farfán, qui est désormais un joueur du LAFC. À seulement 22 ans, il est encore éligible. Donc, ça aurait peut-être été intéressant de le voir aller. Mais c'est ça, je pense que c'est un très bel effectif déjà. Donc, honnêtement, c'est ça. Peut-être un Marco Farfán, un Frankie Amaya, des joueurs comme ça, un Cole Bassett, mais vraiment, non, c'est déjà un très bel effectif à
Effectivement, c'est vraiment un bel effectif. Il y a beaucoup de joueurs, je pense, parmi cette liste-là qui y ont déjà leur place en équipe nationale américaine, dépendamment bien évidemment de qui est appelé d'Europe. Moi, je suis curieux de voir un peu les Européens que je connais un peu moins. comme Chris Gloucester du PSV ou bien Brian Caillot de Wolfsburg, que moi, sincèrement, je ne connais pas vraiment. Le reste, c'est sûr, je suis content de les voir, tous les joueurs de MLS, je les connais déjà. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner. J'ai jamais vu Brady Scott, par exemple, très curieux, mais c'est quand même intéressant de le voir appelé avec l'équipe U23. Ça prouve que Austin FC a fait quand même un très bon choix. Un petit mot sur Brady Scott, Anthony?
Oui, ben en fait, il a été recruté de Cologne par Nashville en début de l'année passée, vers la mi-année, pardon. Et il a été pressé en, il a été prêté en USL. Et je pense qu'il a quand même bien fait. Donc, ça se rapproche quand même du niveau d'un David Ochoa, qu'on a quand même beaucoup d'espoir en lui, en MLS, là. Donc, vraiment, Brady Scott, c'est un gardien d'avenir. C'est sûr que je pense que là, en ce moment, il va faire office de troisième gardien pour l'équipe nationale U23. Mais non, je pense que c'est un des bons jeunes gardiens aux États-Unis. Et j'espère le voir faire quelques minutes en MLS. Ça serait vraiment bien. Mais c'est ça. Sinon, il a joué un peu en USL la saison passée.
Ouais, bon, en tout cas, on a hâte de voir ce qui va se passer dans ce camp américain. Du côté du Canada, on a quand même une équipe nationale aussi complètement remaniée. Beaucoup de joueurs qui sont pas là, qu'on a l'habitude de voir qui sont pas là. On sait que le gros chantier du côté de John Herdman, c'est la défense centrale. Donc, on a hâte de voir les essais qui vont se faire en défense centrale. Je vais vous donner la liste des joueurs. Je veux juste vous dire qu'il y a 10 nouveaux joueurs qui ont jamais été appelés auparavant, qui font partie de cette liste-là. Donc, John Herdman est en train d'expérimenter avec le Canada. Donc, on a du côté des gardiens, Maxime Crépeau, James Pantemis et Dane Sinclair. En tant que défenseur, Derek Cornelius, Belal Albouni du Werder Bremen, la deuxième équipe du Werder Bremen, Kamal Miller de l'Impact de Montréal, Frank Sturing du FC Den Bosch aux Pays-Bas, Joel Waterman aussi de l'Impact, Samuel Adegbe de Vålerenga en Norvège, Zoran Basson de l'Impact de Montréal, Zachary Broguillard aussi de l'Impact, Tijin Buchanan avec les Révolutions de la Nouvelle-Angleterre qui nous a beaucoup impressionnés en tant que latéral droit, Christian Gutierrez des Whitecaps de Vancouver en tant que latéral gauche, Alistair Johnston, ton petit chouchou, Anthony de Nashville, Richie Larea qu'on a l'habitude de voir maintenant du Toronto FC. En tant que milieu de terrain, Teixeira Akindele, toujours là, Marco Bustos, un joueur de CANPL qui est appelé le seul joueur de CANPL qui est appelé par John Herdman, c'est Marco Bustos, Liam Fraser de Toronto, Marc-Anthony Kay de LAFC, Noble Okello de Toronto, Jonathan Osorio de Toronto, Samuel Piette de l'Impact, Ralph Priso et Ayo Akinola de Toronto, Luca Cavallini des Whitecaps, Marcelo Flores qui joue dans les équipes de jeunes d'Arsenal, Jaden Nelson de Toronto et Théo Corbeanu qui joue avec le Wolves, les Wolverhampton Wolves, et qui a fait quand même plusieurs apparitions sur le banc de l'équipe première en Premier League, même s'il n'a pas joué encore ses premières minutes, un jeune joueur de 18 ans. Tu penses quoi de tous ces joueurs-là? Est-ce qu'il y a des joueurs qui vraiment attisent ta curiosité, ou est-ce qu'il y a des joueurs qui, tu penses, ne méritent pas leur place, par exemple, dans cette équipe-là?
Ben moi, tu parlais tantôt de chantier. Du côté du Canada en tant que défenseur central. Et quand je vois oui, il est jeune, mais quand je vois un joueur d'une réserve d'une équipe d'Allemagne, je me dis peut-être que je veux rien enlever à Belal Albouni, mais je pense que si on veut bâtir quelque chose de solide pour les matchs qui vont compter, qui arrivent quand même rapidement, je pense que j'aurais aimé ça revoir un Amer Didic qui a quand même déjà deux sélections avec le Canada, qui est quand même expérimenté, qui a quand même fait des bonnes performances. Donc, moi, j'aurais pas été contre de voir un Amer Didic à la place de Belal Albouni. Sinon, je pense que le Canada commence vraiment à avoir du solide en tant que latéraux. Je pense que c'était une de nos faiblesses également. Et maintenant, si on prend Davis à gauche, si on met un Laria ou un Buchanan, un Broguillard qui enchaîne les bonnes minutes en MLS, ben on compte avoir des bons latéraux et on a une bonne relève à la gauche. Donc, non, vraiment, je pense que le Canada commence à bâtir un beau projet. Et en plus, là, on n'a pas les Davis, les David, les Arfield, des joueurs importants comme ça. Donc, ça va être intéressant de voir des nouveaux joueurs à ce camp-là. Et j'espère que Herdman va en tirer de très bons enseignements.
Oui, effectivement, je suis d'accord comme quelque part avec toi, avec le choix de Albouni, par exemple, qui est là. Bon, après, je suis curieux de voir ce qu'il est capable de donner. Peut-être que ça va être une grosse surprise. On a déjà vu des joueurs qui ont été sélectionnés du côté des deuxièmes et des troisièmes divisions en Europe qui, finalement, grâce à leur sélection en équipe nationale, sont partis, ont décroché des contrats ailleurs. On pense bien évidemment à Samuel Piette, par exemple. Donc c'est possible. Après, bon, il a 21 ans, il avec l'équipe réserve du Werder de Brême. Même chose pour l'autre joueur aussi qui joue aux Pays-Bas et qui lui aussi, Frank Sturing, 23 ans déjà aux Pays-Bas. Je suis curieux de voir ce qu'il est capable de donner. Après, ça peut être une très très bonne recrue aussi hein, pour l'équipe nationale. C'est intéressant. Après, je pense que oui, je suis d'accord avec toi. J'aurais aimé avoir un Didic. J'aurais aimé avoir un Dominik Zator, par exemple, un des meilleurs défenseurs centraux du côté de la CANPL, être appelé, qui a jamais eu sa chance, même s'il a 26 ans. Il y a une première fois à tout. Et je pense qu'il aurait eu sa place parmi ses défenseurs centraux. Bon, oui, je suis d'accord avec toi. Du côté des latéraux, je suis complètement d'accord aussi avec toi. On a vraiment de la profondeur. T'as parlé du côté droit de Broguiard, de Buchanan. C'est intéressant du côté droit. Mais du côté gauche, on a Adekugbe qui est quand même un bon défenseur gauche. On a Basson, on a Gutiérrez, on a Alphonso Davies maintenant, comme tu l'as dit. On a même Alistair Johnston aussi du côté droit. Donc, on a ce qu'il faut. On a de la profondeur du côté des latéraux maintenant. Ce qu'on n'avait pas il y a même maintenant. En un an, on n'avait pas ce genre de profondeur du côté des latéraux. Donc, c'est intéressant de ce point de vue-là. Je trouve un peu bizarre, par contre, qu'on ne parle pas beaucoup plus longtemps des deux attaquants. Marcelo Flores, Théo Corbeanu, deux jeunes joueurs qui sont à Arsenal et aux Wolves. Qu'est-ce que tu penses de venir et déjà donner des sélections nationales à ces deux jeunes joueurs-là? Ton avis là-dessus, Anthony?
Oui, ben je pense que Herman s'est dit que ça sert à rien de faire venir des vétérans. Je pense qu'il est satisfait avec des joueurs comme Cavallini, ben là qui est présent, sinon des David, des Larine. Fait que je pense qu'au lieu d'aller chercher des joueurs de 27-28 ans qui auraient potentiellement intégré l'équipe, je pense qu'il préfère y aller avec du très très jeune pour vraiment déjà bâtir de la relève. Et donc c'est ça, je pense qu'il veut découvrir la sélection faire découvrir la sélection à ces joueurs-là qui a déjà un pied, on pourrait dire, dans la maison canadienne et vraiment peut-être leur donner un peu plus de responsabilité à travers les années, mais c'est ça, je pense vraiment qu'il est confiant avec le trio Cavallini, Larine et David et c'est ça, c'est vraiment pour préparer après ces joueurs-là. Je pense que c'est vraiment un choix 2026, là, Flores et Corbiani, là.
Ouais, ben ça a l'air de ça, mais il faut faire attention parce que ces deux joueurs-là, on sont binationaux, hein. Donc, t'as du côté de Corbeanu, c'est un joueur qui est très convoité par l'équipe nationale roumaine. Il a même joué dans les équipes de jeunes roumains déjà, mais il a préféré, vu qu'il est né au Canada, il a préféré choisir le Canada. Donc, ce qui est même quelque chose d'intéressant, c'est un joueur très grand de taille, 1,90 m, qui est capable vraiment de jouer dos au but, capable de jouer sur l'aile droite, mais aussi en pointe. C'est plutôt un joueur d'aile. Je suis curieux de voir ce qu'il va donner et j'ai comme l'impression que John Herdman va devoir le faire jouer rapidement dans les matchs officiels pour qu'il n'aille pas ailleurs. Donc ça, c'est du côté de Corbeanu. Et du côté de Marcelo Flores, ben lui, il a la double nationalité avec la nationalité mexicaine aussi. Puis c'est un joueur qui peut jouer aussi en pointe, mais aussi en tant que milieu offensif, en tant que numéro 10. Ça peut être quelque chose d'intéressant aussi, sachant qu'il a le côté Arsenal. On sait combien Arsenal est quand même une équipe qui s'est très bien formée des joueurs. Je sais pas, j'ai comme l'impression J'ai comme l'impression que Marcelo Flores, c'est un joueur sur lequel on va devoir compter. Il va falloir aussi faire attention aux convoitises de la sélection mexicaine. Il a seulement 17 ans. Et juste pour vous donner une petite idée, Per Mertesacker, qui est l'ancien défenseur central d'Arsenal et de l'équipe nationale allemande, a dit de lui que Marcelo Flores est sur le chemin de devenir une légende d'Arsenal. Donc, avoir ce genre de mots de la part d'un joueur de légende qui est Per Mertesacker, ça te donne envie, non?
Oui, c'est sûr. Et en plus, si on peut l'avoir avec nous, avec la sélection, je pense que ça va être très bien. C'est sûr, c'est quand même beaucoup de pression pour un jeune joueur de se faire dire ça dans un aussi grand club. Mais non, j'espère qu'il mérite les louanges parce que moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu jouer. Et s'il mérite les louanges, ben j'espère vraiment qu'on va le faire jouer dans un match officiel bientôt avec le Canada parce que ça se peut que le Mexique soit sur lui également, là. Sinon, moi, dans les buteurs, un joueur que j'aurais peut-être vu, c'est Théo Beer, le buteur des Whitecaps de Vancouver. Je me demande si Iron Man a peut-être tourné la page pour Burke qui a pas eu la meilleure saison la saison passée là.
Ouais, ben c'est possible que Theo Bear ne fasse plus partie des plans, mais je pense aussi que le camp de janvier, faut pas trop lire là-dedans, c'est vraiment pour que John Herdman puisse voir et rester en contact avec ses joueurs, que ce soit pour le futur comme tu l'as dit plus tôt. Ou bien pour découvrir des joueurs qui puissent donner des minutes intéressantes à l'équipe nationale. Donc, on a parlé de Albuni et de Sturing, qui sont des joueurs qui pourraient peut-être faire partie si jamais ils impressionnent dans ce camp-là. Donc, bref, c'est un peu le camp des essais. Donc, on va voir ce qui va se passer de ce point de vue-là. Ça va être tout pour nous aujourd'hui sur le podcast de Culture Soccer. J'espère que ça vous a plu. Anthony, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui de faire le podcast avec moi. C'était extrêmement intéressant, je trouve.
Oui, merci à toi, Adi, également. Puis vraiment, encore une fois, joyeux anniversaire à Culture Soccer et merci à tous nos rédacteurs, à tous nos lecteurs / auditeurs. Vraiment, c'est apprécier votre support et du côté des rédacteurs, c'est vraiment apprécier votre travail.
Voilà, ben, le mot a été dit de la part d'Anthony de Varenne. N'hésitez pas à partager notre contenu, à faire connaître nos articles et nos podcasts. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Culture Soccer.